Chapeau quand même. C'est pas joué comme ça, moi. Chapeau pour Emmanuel. C'est bien ça, Christian.
Oui.
Très, voilà, très chapeau beau. À elle.
Très jolie.
Toujours à l'écoute.
Dextérité dans les doigts, on sent qu'il y a vraiment.
Ça paraît peut-être à Dominique, ça, notre grand animateur de musique classique. Hein.
Peut-être. Bah, on pourra le garder peut-être. Hein?
C'est
ce
si,
c'est...
Oui, si
on peut l'enregistrer.
Oui, ce serait gentil.
Oui, bien sûr.
Allez, Edith, je te laisse poursuivre le...
Alors, avec Christian, il y a énormément de choses à raconter parce qu'il a énormément de cordes à son arc. Beaucoup de casquettes, on dit aussi. Hein? Donc, tu as parlé des gens qui t'avaient lu en public, mais il n'y a pas que... Il n'y a pas que... Que Clara Guilla-Kessous qui t'a lu aussi. Tu as été lu par des grands auteurs.
Par d'autres, oui, qui m'ont demandé après de leur faire faire des shows. J'écrivais leurs shows et ils les jouaient. Alors les noms, je ne m'en souviens plus. Même quand on me demande de raconter tel ou tel roman, parce que j'écris une quinzaine de romans, une trentaine de pièces, parfois même certains poèmes, je me dis c'est de moi ça. Il y en a tellement qu'on ne sait plus.
Et quand on revient dessus, on dit et, ah, j'ai écrit ça.
Ah, ouais. Et on me demande de raconter tel ou tel truc, je dis pas, je ne sais plus. Et les gens, donc, quand ils me voient sur Internet, quand ils demandent un sketch ou une pièce, je me dis, j'ai écrit ça, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce titre? Donc je cherche, et j'ai parfois du mal à trouver ça,
ah bah dans le
et
temps.
À leur envoyer.
Alors Christian, on va aborder aussi maintenant les romans, parce que du côté du roman, et tu as écrit 4 romans chez Pythagore.
Alors, en fait, j'écris donc une quinzaine de romans.
En tout.
Le premier, ça s'appelait « L'école dont l'incite est un cancre », en 2 volumes. Et ça a été édité aux éditions Prêt et Légaux. Hélas, il est tombé en liquidation judiciaire. Donc ça a été vendu un petit moment, mais surtout le deuxième volume, il était vendu pendant un mois ou deux, pas plus, quoi. Alors là, c'était des flashs de mon métier d'instituteur. Alors je parlais des élèves, je parlais des parents, je parlais de ma hiérarchie, etc.
Tu as parlé du prof qui était, j'ai vu ça quelque part, le prof qui est pas bien, quoi. Qui...
Ah bah, entre autres, oui.
Ah,
oui,
oh,
oui, entre autres, j'ai eu des collègues qui n'étaient pas tristes non plus.
Oui, parce qu'en même temps, tu as de l'humour et c'est très agréable à lire. Alors après, donc, je te laisse poursuivre.
Ça a été le premier, ça.
Ça a été le premier. Et le second?
Alors après, parce que j'aime bien écrire vraiment quelque chose de très humoristique, puis après quelque chose de très noir, j'écris Le Bal des Pourris.
Alors,
et Le Bal des Pourris, pareil, c'était... Non, il y a eu Lucille Galate. C'était mai 68, Lucille Galate. C'est une histoire d'amour... ce sont les premières amours adolescentes. Voilà.
Entre les pavés.
Au collège de Bar-sur-Aube. J'avais pris comme décor Bar-sur-Aube. Pareil, c'était les éditions Velours. Il n'était pas encore en liquidation judiciaire, mais il va y tomber quand je vais présenter mon troisième roman qui s'appelle Le Bal des Pourris.
Le Bal des Pourris,
donc,
je l'ai lu.
Aux éditions Velours, oui.
Oui.
Là, c'était La Résistance et je m'étais servi de... Du maquis de Musique Kranz. Voilà.
Mais un livre prenant,
oui.
Très, très...
Dur, même à lire.
Difficile, parce que ça se passe à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale.
Voilà. C'est l'histoire d'un adolescent qui se promène avec son grand-père. Ils sont devant une superbe maison et ils voient un véritable balai de voitures qui arrive. Et l'adolescent s'étonne. Il dit, qu'est-ce que c'est que toute cette voiture-là? Et il dit, bah, tu sais, il y a bal ce soir, comme tous les samedis. Parce que c'est notre député qui donne un bal, c'était à l'époque un collaborateur, et il continue avec les anciens collaborateurs à donner un bal, ils se réunissent tous les samedis. Et il dit, je vais te dire ce qu'il a fait.
Mmh.
Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on appelle ça le bal des pourris.
Oui, on ne dévoile pas, mais on invite les gens à se procurer ce livre,
ben,
et entre autres.
Il est
en rupture.
Oui. Donc, ce sont mes amis, Patrick Drault, que vous allez recevoir, Bernard Simon, et son frère m'a fait la couverture, puisqu'il est tombé en liquidation judiciaire, l'éditeur. Hein. Donc, ils m'ont dit, bah, ne te tracasse pas, on va faire ça aux petits oignons, il n'y aura plus qu'à l'envoyer chez l'éditeur, et c'est comme ça qu'on a refait une première mouture, donc. Oh, c'est un livre de 400 à 500 pages, quand même, un gros pavé. Hein.
Oui, oui. Mais on ne se lasse pas, disons qu'on ouvre la page, on est obligé d'aller
voilà.
Au bout.
Et comme donc, je les vendais moi-même, Et à l'époque, je faisais très peu de salons du livre. Hein. C'était donc à compte d'auteur. Mes copains m'avaient fait tout ça gratuitement. Et puis, comme ça plaisait bien, il y a eu une réédition. Et puis là, j'ai dit, j'arrête. Hein. J'arrête, pourquoi ? Parce qu'après, j'ai réussi à trouver un véritable éditeur. Voilà.
Alors maintenant ?
Mais qui n'aimait pas le bal des pourris, qui n'aimait pas
Lucille Galat. C'est compliqué Galat. Quand même.
C'est très compliqué.
On ne peut pas plaire à tout le monde.
Non, non.
Alors, donc maintenant, tu es dans quelle maison d'édition ?
Alors, Dominique Adler me dit, tiens, lui, il écrivait des romans policiers. Il me dit, bah, tiens, il y en a un chômeau. Présente-lui voir Lucille Galat, donc il n'a pas aimé. Présente-lui l'autre, il n'a pas aimé. Et un beau jour, j'ai dit, purée, mais je vais changer complètement et de style et d'inspiration. Et je me suis rappelé que dans mes pièces de théâtre, il y avait toujours un enfant. Et j'ai toujours aimé, j'ai toujours vécu au milieu des enfants.
Bien sûr.
J'ai dit, je vais écrire sur les enfants. Et j'ai écrit Popol. Popol, c'est un personnage avant d'œuvre. Il a maintenant 72, 73 ans. Il était orphelin. Il vivait dans une série. Et j'ai dit, pourquoi est-ce qu'on t'appelle Popol ? Alors, ton nom de prénom, c'est Jean-Claude. Donc, je suis parti de là. Et je lui ai d'abord demandé l'autorisation. Je lui ai dit, attention, ça n'ira pas bien loin. Je vais peut-être faire de l'auto-édition. De toute façon, je suis refusé par tous les éditeurs. Personne n'en voudra. Et ça va être des chapitres courts, un style court. Ça va être très épuré, très moderne. Et ça va être très gai, malgré le thème. Est-ce que ça t'embête ? Ah, ben, il dit non, au contraire, je serais flatté. Oh, mais j'envoie ça chez le Pythagore, et le Pythagore me renvoie le manuscrit, on publie. Parce qu'il parle beaucoup, hein, l'éditeur du Pythagore.
Et donc, il a publié. Mais alors, ouais. Après, c'est une saga, parce que bon, t'as continué, Popol, alors...
Donc voilà, Popol. Si tu veux, je peux résumer,
Christian. Le début de Popol. Bien sûr, c'est ce que je veux. Là,
donc,
je...
le fameux Popol, c'est un petit garçon... qui a donc perdu sa mère et qui a été élevée par sa tante, mais plus ou moins bien, parce qu'elle était couturière et puis elle préférait la présence des messieurs. Et le frère de cette dame-là lui préférait plutôt aller traîner dans les cafés. Donc mon Popol s'élève tout seul. Et qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il va dans les bois, et puis un beau jour, il y a une assistante sociale qui lui court après. Alors, il est obligé de se sauver vraiment dans les bois et il fait rencontre d'une petite gitane. Il tombe amoureux de la petite gitane. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'avant, il fait la rencontre d'un braconnier. Il se lie d'amitié avec le braconnier. Et après, il rencontre la petite gitane. Donc, ils sont toujours ensemble et puis un jour, il vient, pof, pour une raison que je n'indiquerai pas, la roulotte est partie. Plus de roulotte. Donc, Popol est triste, puis il y a l'assistance sociale qui se rapproche de lui, donc il fuit, il va traverser la France à sa recherche. Donc, c'est un livre qui est à la fois émouvant, mais plein d'humour. Ça se passe dans les années 50-60, avec des jeux de mots un petit peu à la Audiard, mais pas cru du tout. Ce sont des jeux de mots poétiques finalement. Ils jouent avec les mots, ils jonglent avec les mots.
Et tu dis à la fin, par exemple, sur ta quatrième de couvre, ce roman, drôle et émouvant, se déroule dans les années 50 et 60, et dresse des portraits pittoresques. Popol est une ode à l'enfance, à son regard porté sur le monde et ses différences.
Voilà.
Donc, avec ta sensibilité, c'est un livre qu'on lit aisément, parce qu'on plonge directement dans l'histoire. Mais il n'est pas fini. Alors ça, c'était le premier Popol.
Alors l'intérêt de Popol, c'est le garçon qui va illuminer toutes les rencontres. Parce que dans cette bon sang de forêt d'Orient, il va rencontrer donc le braconnier, des gens qui sont en rupture de société, des gens qui ne supportent plus la société. Et il va leur apporter quelque chose à tous ces gens-là. Il va les hisser. Et c'est ça qui est chouette. Voilà.
Et ça, c'est dans le second tome ?
Alors, ça, c'est dès le premier.
C'est le premier.
Alors, comme ça marchait bien, l'éditeur me dit, « Ah, ça serait bien de faire une série. » Ah ben, je dis, « Ouais, pas de souci. D'abord, c'est prêt. » J'en ai écrit plusieurs. J'en ai écrit cinq, en définitive. Hein. Alors, le deuxième, ce sont les aventures de Popol. C'est Popol et ses amis, moi. Et dans le deuxième, notre ami Popol doit passer l'examen d'entrée en sixième. À cette époque-là, pour entrer au collège, il fallait passer un examen.
Oui.
Et comme mon éditeur a mis des voitures sur toutes les couvertures, et je lui dis, pourquoi vous mettez des voitures alors que ça n'a pas de rapport avec le sujet ? Mais il me dit, c'est pour dater. Ah, bon, d'accord. Alors je me suis servi de la 4 chevaux qu'il a mise pour le premier, dans le deuxième, en disant, ce sera la 4 chevaux de l'institutrice. Et il est vrai que quand nous sommes partis passer l'examen C'était au lycée de garçons de Troyes. Ouais. Fontaine-Argent, c'est bien là.
Oui,
c'est là. Nous voilà partis, on était trois dans la voiture, et nous voilà partis passer l'examen d'entrée en sixième. Bon, j'étais sûr d'avoir raté, j'étais très mauvais élève. Mes parents étaient découragés, ils ont dit « qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de lui, c'est pas possible ».
Quand on voit le résultat, ça va.
Ah ben, je sais pas si ça va, mais ça n'allait pas bien. Et donc, et puis alors, à l'issue de l'examen, bien sûr, dans la voiture. Au fait, en calcul, vous avez ceci, qu'est-ce que vous avez mis? Montrez voir un peu vos papiers. Moi, j'ai pas gardé les brouillons, moi. J'en avais fait une boule et j'avais shooté dedans et j'avais envoyé ça dans une bouche d'égout. Et j'avais crié but. Alors, c'était bien embêtant. Parce qu'il m'a demandé la solution. Oh là, je ne me rappelle plus du tout. Hein. Donc il nous posait des questions. Oh non, je subissais un deuxième examen. Donc je raconte ça dans le deuxième roman.
Et ça s'appelle Sacré Popole.
Voilà.
Sacré Popole.
Sacré Popole. Puis après, l'éditeur m'a dit, vous en avez un troisième? J'ai dit oui. Ça va s'appeler Popolissime.
Popolissime. Alors qu'est-ce qu'il fait dans ce...
Alors le Popolissime, alors ça, je ne peux pas tout raconter, mais à un moment donné, notre ami Popole va vivre dans un manoir. Et dans ce manoir, il y a le concierge qui vit avec sa maman. Or, la maman décède. Et alors, c'est la première fois que Popole va voir quelqu'un qui est décédé. Il dit, c'est vrai qu'à Vendeuvre, dans les rues de Vendeuvre, des défunts, on n'en voit pas beaucoup. Hein. Donc, il est tout content de se trouver parce qu'il pense à la vie d'après. On lui racontait que sa maman était au ciel.
Oui.
Donc, on va tous se retrouver là-haut. Donc, c'est formidable. Donc, je voudrais voir comment elle est. Et par exemple, mon ami Popole, parce qu'on lui interdit, bien sûr, d'entrer dans la pièce mortuaire, dans la chambre de la vieille dame, on a mis des pièces sur les paupières de la dame, et il dit, mais c'est pas possible. Oh, dire que pour aller au paradis, ils ont mis des barrières de péage. Non, mais c'est à vous de dégoûter quand même d'être gentil. Je comprends qu'il y ait des gens méchants sur Terre. Il faut payer tout le temps. Voilà.
Même pour aller au ciel.
Les réflexions de Popole.
Popole.
Donc, c'est le petit garçon face à la mort. Alors, les gens me disent, oh, c'est pas gay. Mais je dis, au contraire, vous allez rire.
Oui, puis en même temps, voilà, c'est dit avec tellement d'humour.
Voilà,
Popolissime, ça s'appelle. Popolissime.
Puis après, il y en a eu d'autres. Il y en a un qui s'appelle Signé Popole, mais qui n'est pas en voie d'édition.
Oui, parce qu'il y en a cinquième qui sont en...
Ouais.
Voilà, t'as de l'avance, tu prends de l'avance.
On est passé à autre chose après, on en a fait trois, puis voilà.
Alors, il y a après Riton.
Alors voilà, donc on sait, alors maintenant, c'est plus un éditeur que j'ai, c'est une éditrice, c'est son épouse. Et, ah oui, j'avais eu un accessite, il y avait un concours de l'association des écrivains au Marnais. Bon. Je participe, j'emmène les copains, je ne sais plus où c'était, à un salon du livre quelconque, et il devait annoncer les résultats. Je lui dis, vous savez que j'ai participé? Ah bon? Ouais. Mais vous ne tracassez pas, j'ai aucune chance. Hein. J'ai envoyé un roman, il n'est même pas terminé. Ah bon? Tu envoies des romans? Ouais. Et puis, j'étais en train de discuter avec les autres, j'entends mon nom. Je dis, c'est pas vrai que j'ai gagné. Ça, c'est comme l'histoire de Fernand Reynaud. J'avais gagné la photo, mais pas le cadre.
Parce que
le cadre, fallait le payer. Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, ils ont eu énormément de soucis de savoir si c'était moi qui étais premier ou pas. En fait, j'étais deuxième. Je suis arrivé deuxième. Et j'ai dit, je suis étonné parce qu'il n'est même pas terminé. Ben, ils m'ont dit, oui, on a bien vu, mais il est très prometteur et ça nous a beaucoup plu. Alors après, je l'ai envoyé à mon éditeur. L'éditeur a dit, oh là là, il a fait lire à son comité de lecture. Et son comité de lecture a dit, il faudrait qu'il évite dans la deuxième partie de retomber un peu dans le style Popole, parce que ce qu'il raconte, c'est sur l'abandon des enfants. En allant traîner du côté du canal, tu le sais, il y a un tourniquet, c'est marqué encore « Tronc des enfants trouvés ».
Je connaissais pas.
Ah, je peux t'y emmener, te montrerai.
Avant de ressortir.
Ah non, à Troyes.
À Troyes.
Ah oui,
Troyes.
C'est à l'Hôtel Dieu.
D'accord. Ah oui, à Troyes.
Alors, les pauvres femmes déposaient leur enfant là, dans le trou, et à l'intérieur, on tournait, il y a un certain tourniquet, et récupérait l'enfant.
Voilà, on connaissait ça.
Donc, je parle de cette histoire-là.
D'accord.
Donc, tu vois, c'est pas gay.
Oui.
Et puis, à la fin, on voit le petit garçon, le bébé, évoluer, etc. Donc ça s'appelle La carte à jouer, et mon éditeur m'a toujours dit, on va l'éditer. Et puis, surprise, il édite Riton, le facteur, et son chien Marcel en tournée. J'y vais, je suis surpris, je croyais, ah, mais il dit ça beaucoup plus à ma femme. Sa femme, elle dit, mais moi, ça me rappelle, ça se passe dans les années 50-60, pareil, ça me rappelle ma jeunesse, le facteur d'autrefois, qui rendait des services. Et dans ce livre, ce dernier livre qui est paru en février, c'est le dernier, je me suis servi de Fernandel et de Don Camillo. Tu sais, Don Camillo, oui, qui parle au Christ du maître-autel, et le Christ lui répond. Je me suis dit, tiens, si je faisais intervenir un facteur avec son chien, le facteur parle au chien, le chien répond au facteur, et puis voilà, ce sera sa conscience en quelque sorte. Et je vais parler de toutes les rencontres qu'ils vont faire tous les deux, avec des gens un peu brin-de-vin, quoi, faut bien le dire. Donc c'est extrêmement... Alors il n'y a pas d'émotion, mais on rit bien. Contrairement à Popol, où c'est un mélange d'humour, et puis on verse une petite larme quand même.
Alors ça s'appelle Riton, le facteur et son chien.
Marcel.
Et bien Marcel, en tournée.
Voilà.
Voilà. Alors ça c'est le dernier.
Ah, ouais.
Il y en a d'autres. Alors, moi je veux bien qu'on fasse encore une petite pause en écoutant Emmanuel, et puis on va poursuivre après, si tu veux. Sur, on a encore beaucoup de choses à dire quand même. Hein, beaucoup de choses.
Alors si vous voulez, là, ce sera encore du Erne Donani. Toujours tiré de Ruralia Ungarica, opus 32A, et ce sera le Vivace. Voilà.
Eh bien, place à toi, Emmanuel.
La musique, la communication, l'information, c'est Radio OBSN.
Affaires champenoises, Arcis-sur-Aube, Pont-sur-Seine, on écoute Radio OBSN sur le 98.2 de la bande FM. Bonne journée. Chapeau. Ah, chapeau quand même. Hein. Voilà. On continue, bien entendu, sur les ondes de Radio Bessène avec notre ami Edith et puis l'invité Christian, bien sûr.
Christian, oui. Merci de nous avoir amené ce CD d'Emmanuel, Emmanuel Moria. Franchement, on se régale parce que c'est à la fois vif et très prenant. On est un petit peu dans l'histoire parce que la musique, c'est un peu comme l'écriture. Et c'est ce rythme qui nous entraîne et qui nous emmène quelque part quand il y a des images aussi en même temps, parce que la musique également traîne des images et on sent aussi cette passion qui est dedans. Et tu disais qu'elle faisait des doublages pour le cinéma.
Alors entre autres, oui, lorsqu'une comédienne et il y en a beaucoup qui ne savent pas jouer de piano, elle leur montre comment on joue, comment on se tient un piano, comment elle va bouger ses mains, et puis après, ben, on l'habille comme la comédienne, et c'est elle qui joue à la place de la comédienne. Voilà. Mm-hmm. Alors elle fait ça, elle fait, alors je disais aussi des captations pour la télévision, pour la chaîne Mezzo, c'est-à-dire elle a fait une captation de l'opéra Pinocchio, c'est-à-dire qu'elle a toutes les partitions devant elle, et c'est elle qui prévient les caméramans, qui dit attention. Côté jardin, entrée de Gepetto, attention côté court, dans 3 secondes, entrée de Pinocchio, attention, etc. Donc, elle a fait des choses comme ça dans sa vie. Mais elle fait beaucoup de festivals également, donc elle joue. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Elle revient donc de Hongrie, de Budapest. Sinon, bah, elle va jouer en Belgique, elle joue en Autriche, elle joue. On ne la voit pas souvent. Hein.
Mm-hmm. Voilà. Concertiste.
Elle est concertiste.
Et on a un plaisir à découvrir. N'est-ce pas, Dom?
Et plus elle joue très rapidement.
J'ai choisi des pièces vives, mais sinon il y a des pièces beaucoup plus lentes, plus poétiques. Mais quand on écoute ça, c'est ce que je disais, ça me fait penser un peu à Chagall. Ce sont des petits tableautins des scènes rurales.
Picturales, oui.
Ouais. Mmh. Ça me fait penser à ces paysans avec leurs fourches en train de. Ça me fait penser à la Pologne, justement.
Oui, parce que ton épouse est polonaise.
Et oui, puis il y a une descendante de polonaise là, qui a côté
oui,
de moi.
Oui, moi aussi.
C'est pour ça que j'en parle.
Christian, on en veut souvent à celui qui a exprimé une bonne idée, parce qu'on se dit, pourquoi moi je n'ai pas eu cette idée-là? J'aurais bien aimé, moi, l'avoir en premier. Et puis, ben, j'ai entendu dire qu'un certain Nicolas Vanier, vous avez eu la même idée, toi avec l'enfant d'un popole qui recherche sa mère, et lui avec son film à l'école buissonnière.
Oui, et j'ai eu pas mal de témoignages sur ce sujet-là. J'ai eu un coup de fil d'un ami. Il y avait Cluzet qui était interviewé à la télévision et qui m'a dit, bah dis donc, ils sortent l'école buissonnière, on a l'impression d'entendre Popol. Oh, je dis, c'est pas possible. Et puis j'ai reçu des courriers aussi en me disant, bah dis donc, il y a une grande ressemblance entre Popol et l'école buissonnière. Donc, c'est une ressemblance en fait qui est pure coïncidence. La preuve en est, comment un roman écrit en 2014 et édité en 2015 aurait-il pu être copié pour un film sorti en septembre 2017? C'est pas possible, ça se peut pas. D'ailleurs, si mon roman avait été plagié, le film ne se serait pas appelé L'école buissonnière, il serait appelé Popol, tout simplement. Et c'est vrai que c'est vrai que Nicolas Vanier parle de Paul et moi de Popol. Et que chez moi, c'est une comtesse, chez lui, c'est un comte. C'est vrai aussi que l'enfant fait la rencontre d'un braconnier, qu'ils deviennent tous les deux amis. C'est aussi qu'il tombe amoureux d'une petite gitane. C'est vrai que la dame qui s'occupe du petit met une serviette à sa fenêtre quand elle reçoit des hommes pour prévenir l'enfant de ne pas rentrer. C'est vrai aussi que, etc., etc. Mais je me rappelle ce qu'avait fait mon éditeur. Il était venu à la maison, il s'était mis au piano, parce qu'il est pianiste de jazz, lui. Et il m'a joué 5 notes, lentement. Après, il a rejoué les mêmes notes rapidement. Il m'a dit, vous avez entendu? Bah, j'ai dit oui. Il m'a dit, on peut pas dire qu'il y a plagiat là. Bah, j'ai dit non. C'est pas le même rythme. Alors, c'est comme si moi, avec Amélie Nothomb, tiens, on va aller au salon de Nancy bientôt, hein, c'est comme si on me reprochait de copier Amélie Nothomb, parce que j'utilise comme elle les 26 lettres de l'alphabet français. Voilà. Donc voilà pour sur ce chapitre-là.
Alors Christian, il y a des romans dont tu as parlé succinctement qui sont comme ça, dans le tiroir, qui sont presque prêts. Alors il y a encore une saga, enfin Popol qui continue, Scout toujours prêt.
Oui, je garde en réserve. si des fois, si un jour, quelqu'un avait l'idée d'adapter cinématographiquement
ton Popol
à Popol, eh ben, je pourrais lui envoyer ça. D'ailleurs, j'ai des gens qui m'ont lu, que vous connaissez. Agnès Joy Bakri a lu Popol. Elle m'a envoyé un petit mot en me disant, voilà, j'ai lu Popol, j'ai beaucoup aimé. Raphaël Mézraï aussi qui l'a lu.
Ah, mais c'est valorisant.
Qui est-ce qui l'a lu encore? Beaucoup d'autres. Ah, ben Jean-Paul Allègre.
Paul Allègre.
Là, c'était pour le théâtre. Lui, il m'avait fait une préface pour une de mes pièces de théâtre. Mm-hmm. Mais sinon.
Il faut dire que tes livres, où est-ce qu'on peut les trouver déjà, tes livres?
Partout. Alors,
dans toutes les librairies.
Ma seconde fille donc vit à Montréal maintenant, après avoir été attachée de production auprès de Yann Wix et puis de François Ozon. Et elle a décidé de tout plaquer, elle ne se plaisait pas du tout à Paris. Et pour des raisons familiales, elle dit j'abandonne tout, je m'en vais à Montréal, je pars. On était surpris parce que c'est pas une fille qui parle beaucoup. Et elle dit je m'en vais. Elle est voilà partie donc s'installer à Montréal parce que Radio-Canada faisait des appels d'offres, mais du temps qu'elle se décide, du temps qu'elle vende son appartement à Paris, du temps, etc. L'eau est passée sous les ponts, elle arrive à Montréal, ah ben non, mademoiselle, compression du personnel. Donc elle est obligée de faire autre chose.
Alors, elle est toujours au Canada.
Elle est au Canada. Alors je ne sais plus pourquoi, j'étais parti vers elle. Pour quelle raison? Ah oui, donc. Mon épouse, moi j'y vais souvent à Montréal, et mon épouse qui travaillait n'y allait pas. Et quand elle a été en retraite, ça a été d'aller voir sa fille à Montréal. Donc nous y sommes allés, j'ai dit, tu sais, Montréal, c'est très grand, mais c'est pas comme Paris, on n'a pas l'impression d'être étouffé. Notre fille habite près des installations olympiques, avec la fameuse tour, je ne sais pas si vous voyez. Et je lui ai dit, pour bien connaître Montréal qui est très grand, il faut prendre un autobus impérial. Et tu vas voir quelqu'un qui va te commenter ça, ça va être génial. Nous voilà montés sur l'autobus impérial, et il y a le commentateur qui commande, gna gna gna, ça se brouille, machin, oui, et truc. Et ça, c'est la grande bibliothèque de Montréal. Je ne sais plus combien de personnages. C'est la plus grande bibliothèque du nord-américaine. Et il y a, je ne sais plus, plus de 1000 personnes, je crois, par jour. Je ne sais plus le chiffre exact. Bon, très bien. Puis un beau jour, en se promenant dans les rues, là, ma fille s'arrête devant la grande bibliothèque. Elle dit, tu sais pas, on va rentrer, on va voir si tu n'as pas tes livres. Je dis, tu rigoles, non, mais franchement, je n'ai qu'un éditeur, les autres c'est un compte d'auteur, j'ai ma série des Popol, je vois mal Popol débarquer à Montréal. Ben, elle dit, on va voir. Donc elle s'installe, ordinateur, parce que tout se fait sur ordinateur, elle cherche Christophe Moria, un Popol, qui sort deux Popol. Donc les deux Popol sont à Montréal. J'ai vite passé un coup de fil au vrai Popol de Vendôme. J'ai dit, dis-donc, Jean-Claude, tu sais que tu es célèbre là-bas à Montréal, on parle de toi. Voilà, il était très content. Donc, on les trouve partout dans les pays francophones.
Oui.
On peut les trouver dans les maisons de la presse. Un peu pas. On va à Troyes dans les maisons de la presse. On les commande,
oui,
simplement.
Oui, mais à Romilly, on les trouve.
On les trouve partout. Belgique, Suisse, Italie...
Très connu, le petit Popol. On la voit partout, la petite Dodoche. Hein.
Oui.
Mais en plus, c'est vrai qu'elle attire l'œil parce que ça, elle est jaune. Et on dit, tiens, une petite boule de cuisson.
Les gens sont surpris quand je raconte l'histoire. Ils me disent, on ne savait pas.
Il n'y a pas de...
Non.
De cause à effet du tout.
On m'a dit, on n'imagine pas que derrière ce livre, il y a un petit enfant qui cherche sa mère et qui est amoureux d'une petite gitane.
Ben non, voilà. Alors, je voulais te citer une phrase, c'est... Haruki Murakami, que tu connais bien peut-être, Murakami.
Pas du tout.
J'ai eu l'occasion de le lire, j'ai un livre de lui. Le romancier, dit-il, n'est pas quelqu'un qui résout les problèmes, c'est quelqu'un qui pose des questions. Donc c'est vrai que le petit Popol, il va poser des questions et s'aventurer comme ça, au fur et à mesure de la vie, de sa vie. On le voit grandir et traverser les épreuves.
Ça rend moins initiatique. Et je me suis débrouillé. Alors, l'originalité aussi de ces romans-là, c'est que chaque livre peut être lu indépendamment. Il n'y a pas d'ordre. Il vaut mieux commencer par le premier, Popol. Mais enfin, il y en a qui achètent le troisième, il y en a qui achètent le deuxième, mais il vaut mieux commencer par le premier. Mais je me suis débrouillé pour qu'il n'y ait pas de fin. En général, un roman, à la fin, on a une chute.
Oui.
Chez moi, non. Il y a une élévation.
Comme ça, ça te permet de continuer.
Voilà. C'est comme une musique qui se termine, tu sais, c'est pas la note, bon, c'est la note.
Voilà.
Voilà. Le roman est terminé. mais il en appelle un autre.
Alors peut-être un jour on verra à la télé, dans les séries, Popol.
Je crois que je serai mort avant. Hein.
Non, mais pourquoi pas. On dit à titre posthume, mais peut-être de ton vivant, pourquoi pas. C'est tout le mal qu'on te souhaite en tout cas.
Ah, c'est gentil.
Mais oui, il y a une dernière question que je voulais te poser avant qu'on termine cette belle émission. Est-ce que tout ça te rend heureux?
Il faut demander à mon épouse, qui subit.
Qui subit.
Parce qu'elle me dit, ouais, t'es vraiment solitaire. Ouais, je me lève 5-6 heures du matin pour écrire.
D'accord.
Elle dort. Mais là, je suis à moitié endormi. Je sais pas, j'ai davantage d'idées. Et bah, je me coupe quand même pas mal de monde maintenant. Ah, mais j'ai une santé qui ne me permet plus de jouer. Avant, je jouais. J'ai eu une troupe de théâtre. Ben ça oui, s'appelait L'Échange. Hein. J'ai fait ça pendant 10 ans. Je m'occupais aussi d'un comédien. Je lui avais monté son show. Je lui avais écrit son one-man show. Il a tourné pas mal dans la région. Et je jouais moi-même. Et puis bon, j'ai eu des pépins de santé. Ce qui fait que je ne pouvais plus jouer. C'était plus possible. J'allais pas me tordre de douleur sur la scène. Il m'a évacué. Donc, je me suis dit, je ne me consacre. Alors, qu'à écrire des sketchs pour m'amuser, pour me distraire, oui. De la poésie pour m'évader, oui. Et puis des romans. Je n'écris de romans que depuis que je suis à la retraite. Parce que je me suis dit, tiens, dès que j'étais à la retraite, je n'ai jamais écrit de roman. Je vais voir si j'ai suffisamment de souffle. Parce qu'on n'écrit pas un poème.
C'est un peu plus long, bien sûr.
Ben voilà. Est-ce que je vais avoir suffisamment de souffle? C'est pour ça que j'avais commencé par écrire des flashs qui me revenaient. Alors c'est un peu décousu, l'école dont l'Institut est un cancre. Il n'y en a plus d'ailleurs. Ça plaisait bien, ça marchait bien. Hein.
Et les nouvelles aussi, ça peut être un tremplin.
Alors, je me suis rendu compte que j'étais pas si doué que ça pour les nouvelles. J'en ai écrit quelques-unes. Ah ben, il y en a une qui va paraître, je n'y pensais plus, au mois de juin, avec l'Association des écrivains marnais, un recueil collectif de nouvelles. Ouais. Donc, il y en a une qui va paraître, ça s'appelle « Juste quelques mots d'amour ».
Oh. Tout un programme. Et en même temps, le futur, c'est aussi l'actualité. Tu es en dédicace très régulièrement.
Oui.
Est-ce qu'il y en a de prévu prochainement?
On essaie d'aider notre éditeur. Hein, et puis, on est content quand même des rencontres qu'on peut faire avec nos lecteurs, nos futurs lecteurs. Et puis, avec des couvertures qui présentent des voitures, il faut que je leur explique quand même le thème.
Ben, bien sûr.
Voilà. Sinon, ils ne peuvent pas deviner.
Alors, elles ont 4 roues, donc c'est ça, les 4, peut-être.
Oui. Et donc, les prochains... Là, je reviens d'Orge. Le marché artisanal de la fleuristerie du Moulin. C'est le Moulin de la fleuristerie d'Orge. Voilà,
Orge. Ça se trouve où, Orge?
En Haute-Marne, pas loin de Chaumont. Alors, on fait des dédicaces, bien sûr. J'en ai fait à la Maison de la Presse à Troyes. J'en ai fait à Chaumont, chez les Pythagore. Oui. Et puis alors, je vais participer prochainement au Salon du Livre de Nancy. Et ça, c'est très agréable parce que tu te retrouves avec des gens comme Amélie Nothomb, comme Ruffin. Là, il y a l'autre volet, tu es mélangé avec tous ces gens-là, c'est formidable.
Ah,
tu
oui,
fais
c'est
des rencontres.
Vrai, c'est des belles rencontres.
Alors, il y a au moins, je crois que c'est 10 000 personnes par jour. En 3 jours, l'année dernière, il me semble qu'il y a eu 180 000 personnes qui sont venues. C'est fabuleux. Les gens n'avancent plus. On a le temps de parler avec eux. Hein. Mm-hmm. Ils s'arrêtent devant mon stand. J'ai le temps de leur débiter mon histoire de Popol. Hein.
Oui, c'est fantastique. C'est comme le Salon du Livre de Paris, beaucoup, beaucoup.
Alors, Paris, je n'y vais pas. J'ai failli y aller parce que j'ai une santé assez précaire. Et si je vais à Paris, il faudra que j'aille chez ma fille aînée, qui ne sera pas là, et qui habite Villemomble. Elle m'a prévenu, elle y pourrait être Villemomble.
C'est plus loin.
Ah, la porte de Versailles.
C'est
fait. Ça te fait 1h30 aller, 1h30 de retour, ça te fait 3 heures. Elle dit, non, si tu tombes dans les pommes par là.
Ben voilà.
Donc, j'ai dit à l'éditeur, écoutez, hein, si c'est pour vendre quelques livres, faire quelques dédicaces. Tandis que. Le Salon du Livre de Nancy, c'est mieux parce que l'hôtel est tout près.
Et puis, bien reçu.
Oh oui. Oh, bah, partout, on
oui,
est toujours
souvent,
bien reçu.
Souvent,
oh, jamais j'ai été mal reçu. Où que j'aille, on est toujours reçu à bras ouverts. Oui.
Alors, tu as dit toi-même, le bonheur, c'est de réussir ce qu'on n'aurait jamais pensé être capable de faire.
Oui, je pense, oui.
Et...
Oui, jamais j'aurais pensé... Bon... Je répète encore une fois, j'étais un élève mauvais, mais franchement, personne ne me croit, mais c'est vrai, très mauvais. Mes parents s'arrachaient les cheveux. Et je me rappelle, désespéré, ils étaient allés voir l'instituteur, qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Parce que mon grand-père donc, était directeur des forges de Bar-sur-Aube, maintenant ça s'appelle Manoir Aérospace, donc c'était le directeur de Barlor Forge, ça s'appelait après. Et mon père donc, dirigeait une entreprise de bonnerie. Il y avait plus de 30 ouvrières. Bon, la bonnerie, n'en parlons pas, c'est pas là où il fallait que j'aille. Mais mes parents rêvaient. Alors j'ai eu un frère que j'ai perdu dans un accident de voiture. Donc lui, il était plutôt, il travaillait avec les Allemands dans les machines, comment ça s'appelle, les rayons, les choses comme ça.
Les rayons X
pour les cancers.
Ah
peut-être.
Oui, rayons X, d'accord. Pas les rayons de vélo.
Non. Non, dans le corps médical. C'était les tout débuts.
Ah oui,
il travaillait là-dedans. Et quand il y avait des interventions, il était présent. Parce que les chirurgiens, les spécialistes, méconnaissaient ces machines-là.
C'était
il m'a dit, c'est fabuleux, ils ont des tabliers en cuir, ils ne s'en servent pas, et puis ils ne prennent aucune protection. Ça ne va pas.
Ils ne connaissaient pas.
Voilà, ils ne connaissaient pas. Donc mes parents auraient aimé que je me dirige là-bas. D'abord, ils m'avaient mis au lycée technique à un moment donné, mais ce n'était pas possible, ils me faisaient suer, j'étais nul. Pas doué de mes doigts.
Et là, tu as trouvé ta voie, en fait, d'écriture.
Ben, j'aurais bien fait que ça, dans ma vie, si on me l'avait demandé.
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup qui peuvent vivre de leur plume, à moins d'être...
Voilà.
Mais là, ça va venir bientôt pour toi, peut-être.
Mais la chance que j'ai eue, c'est d'être au milieu des enfants. Et les enfants que je rencontre, je suis allé il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai retrouvé les anciens, même des gosses de maternelle, ils se rappellent parce que je grattais de la guitare. En plus, alors, ils se rappellent de la guitare, de la jonglerie, tout ça. Et on évoque tous ces souvenirs-là. Et donc, je leur ai apporté un peu quelque chose quand même. Donc, ça me fait plaisir.
C'est un beau cadeau pour toi.
Voilà.
Un beau cadeau. Ouais. Toi, tu leur as donné.
Donc,
et
je regrette pas.
Tu te donnes un retour.
Puis les ouvriers, avoir la poésie aussi.
Oui, le bonheur, c'est ça, en fait.
Oui,
c'est constater ce qu'on peut faire et puis être heureux de ce que l'on a.
Et puis, dans ma vie, j'ai eu la chance de rencontrer une femme qui est très douée de ses mains, contrairement à moi. Alors, c'est le contraire, c'est tout à fait l'opposé. Elle est effacée, tu t'en es rendu compte.
Oui, j'ai vu parce qu'elle attend dans la voiture, elle n'a pas voulu monter.
Non. Elle ne montera jamais. Donc, elle est très effacée, elle me résout tous mes problèmes matériels. Moi, franchement, pour planter un clou, je ne sais pas quoi, c'est la croix et la bannière.
Et c'est elle qui plante les clous.
Je plante les clous sous sa direction. Et quand je ne le fais pas, c'est elle qui prend le marteau.
Alors, Ralph Waldo Emerson disait « Le talent seul ne suffit pas pour faire un écrivain. Derrière un livre, il doit y avoir un homme. » Et toi, tu es cet homme parce qu'à travers tes livres, tu as ta personnalité qui ressort, tu as cette émotion que tu sais donner, tu as cette musicalité qui est dans les mots, qui transparaît, qui nous transporte.
Attention parce que j'ai mes chevilles qui commencent à me faire sous la table.
Et c'est un plaisir. En tout cas, nous avons eu un grand plaisir à te recevoir aujourd'hui. Et on te remercie beaucoup.
Ben, ça a été très gentil, non ? C'est moi qui vous remercie, franchement. Et puis je te dis, on n'est jamais. Je suis toujours à la recherche de faire mieux. Parce que. On est artiste, on n'est pas artiste, on n'est pas. Il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus de nous.
Toujours.
Et le but, c'est non pas de le jalouser, c'est d'essayer de voir ce qu'il fait. Et puis d'essayer de grandir à ses côtés. Quoi.
Tendre à la perfection.
Voilà.
C'est ça l'artiste.
Donc je suis toujours insatisfait.
On n'est jamais content.
Non, je ne suis pas content du tout.
Mais nous sommes heureux de t'avoir.
C'est vrai que, excuse-moi Edith, c'est vrai que les écrivains, je repense à ça tout à l'heure, c'est plutôt, il paraît que les idées viennent plus dans la nuit qu'en définitive que dans la journée. Peut-être par rapport au calme.
Bah, la nuit, j'évite d'y penser parce que je dors très peu. Alors si je me mets à réfléchir à ce que je vais écrire, je ne dormirai plus du tout. Alors donc, j'évite. Donc quand je me lève vraiment, je suis tout neuf.
D'accord.
Plus ou moins en léthargie, isolé complètement, et c'est peut-être ça qui me permet de réécrire. Donc là, en ce moment, je suis en train d'écrire 10 mètres, ça s'appelle 10 mètres, est-ce que tu veux bien être mon père ?
C'est ça.
C'est l'histoire d'un petit garçon, d'une petite fille, pardon, qui vient s'inscrire dans une école maternelle pendant l'occupation. Et elle n'a pas de père.
Chapeau quand même.
Voilà.
Alors. On va découvrir aussi avec plaisir.
Alors, excuse-moi, j'ai choisi quelque chose. Je pense que ça devrait lui faire plaisir à Christian. Je l'ai appelé Christian. Hein. Je reviendrai à Montréal. Je pense que ça va lui faire plaisir d'écouter ce titre-là.
Bien sûr.
Merci à Christian d'être venu. On a encore appris des choses, Edith, tu vois. Hein.
Mais on apprend toujours. Mmh. En tout
et chapeau
cas,
à lui, quand même.
Oui, hein, c'est toujours un grand plaisir de recevoir
tout à fait.
Avec tous mes remerciements pour votre accueil et pour le café.
Mais on paye après, on paye en sortant.
Oui, il n'y a pas de souci.